Le journal Claire Checaglini. Bonjour Claire.
Bonjour.
À la une ce matin, la première nuit de couvre-feu dans 38 nouveaux départements. Ce couvre-feu va s'appliquer durant 6 semaines.
Et au désespoir des cafetiers, restaurateurs répond l'alarme des médecins. Plus d'un million de cas de Covid ont été recensés en France depuis le début de l'épidémie. En Iran, les autorités sanitaires parlent en cet automne d'une troisième vague de contamination. Elle semble plus meurtrière encore que les deux précédentes. Condamnation hier à 8 mois de prison pour apologie du terrorisme. Un détenu de la maison d'arrêt d'Amiens s'était réjoui de l'assassinat de Samuel Paty.
Notre invité à 8h20, ce sera Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement. Question donc ce matin sur les hébergements d'urgence en cette période de crise et à l'approche de l'hiver.
France Inter.
Il est donc entré en vigueur à minuit la nuit dernière, donc, mais c'est ce soir que le couvre-feu va s'appliquer dès 21h dans 38 nouveaux départements.
Et parmi eux, l'Ille-et-Vilaine, à Rennes, une centaine de patrons de bars et de restaurants et de discothèques se sont réunis ce vendredi devant la préfecture pour appeler à l'aide. Sophie Hélinte est gérante d'un bar rennais. Elle ne comprend pas le durcissement des mesures sanitaires qui pourraient condamner son commerce.
Boire le café le matin, boire votre Perrier le midi, ah bah ça non, c'est trop dangereux. Faut arrêter. Et peut-être qu'on arrivait à s'en sortir un petit peu financièrement, mais là c'est quelque chose qui va nous replonger vraiment dans des situations très compliquées. On a bataillé auprès de nos assurances, on n'a eu aucune aide, rien du tout. On nous recolle des fermetures du jour au lendemain, ça veut dire qu'ils ont pris aucune conscience du fait que on avait des produits qui étaient ouverts, on avait des fûts qui étaient en perte, donc on va reprendre encore des pertes de produits qui sont assez conséquentes. Voilà, on remet nos salariés au chômage technique et ouais, je suis un peu inquiète parce que la petite trésor que j'avais peut-être réussi à refaire, là, elle va se refaire bouffer. Et je sais pas ce qui va nous attendre après, encore en janvier. En fait, on voit pas le bout du tunnel et ouais, franchement, c'est pas rassurant.
L'inquiétude de cette gérante de bar à Rennes recueillie par Evan Lebastard de France Bleu Armorique. Alors à cette réalité économique fait face une autre réalité sanitaire cette fois, avec sa litanie de chiffres chaque jour plus effrayants. Plus de 42 000 cas de Covid ont été recensés en 24 heures. Plus d'un million de porteurs du virus comptabilisés depuis le début de l'épidémie en France et 298 morts supplémentaires en une seule journée. Et le pire reste à venir, prévient Gilles Pialou. Il est infectiologue et chef de service à l'hôpital Tenon à Paris.
Cette situation est plus compliquée que la première vague. Pourquoi ? En trois mots, c'est qu'on a une extension nationale, comme vous l'avez vu, qui touche des villes absolument épargnées jusqu'à maintenant, Rodez, Tours, enfin, et des régions épargnées. Le deuxième élément important, c'est qu'on a une coexistence du Covid à l'intérieur de l'hôpital avec les autres pathologies hivernales qui arrivent et qui va rendre très compliquée la gestion de ces deux confrontations de patients au sein de l'hôpital public. Le fait aussi qu'on aura beaucoup de mal à transférer les patients et à récupérer du personnel sur les zones. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que c'est une épidémie qui est beaucoup moins concentrée dans certaines régions que la première vague. C'est pas seulement sa hauteur et son importance qui va en faire la difficulté, c'est le contexte à la fois national, européen, régional, et puis le contexte de l'hôpital public et du privé aussi qui est concerné.
Un contexte européen où le bon élève allemand, lui aussi, se laisse déborder par l'épidémie. La barre des 10 000 morts a été franchie hier outre-Rhin. Et puis aux États-Unis, près de 80 000 nouveaux cas de Covid ont été diagnostiqués pour ce même vendredi. Un record qui affecte surtout le Nord et le Midwest.
Ouais, situation dramatique également en Iran. Ça a été le pays le plus touché au Moyen-Orient depuis l'arrivée de la première vague. Au moins 30 000 Iraniens sont morts des suites du Covid.
Et le pays fait désormais face à une troisième vague de contamination toujours plus meurtrière. À Téhéran, la correspondance de Yoram Melloul.
Hassan Rouhani, le président iranien, le dit lui-même, le pays combat une vague plus vaste que les précédentes. Plus de 300 morts par jour cette semaine, 337 lundi dernier, un record. Au Moyen-Orient, l'Iran est de loin le pays le plus touché par la maladie et ça ne semble pas près de s'arrêter. Le virus continue de progresser avec plus de 5000 nouveaux cas par jour. Le gouvernement se veut pourtant rassurant face aux internautes qui évoquent des hôpitaux saturés où trouver une place devient compliqué. Il répond « Évitez le stress, il y a suffisamment de lits pour accueillir les patients Covid ». La réalité, c'est aussi que les autorités n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Le port du masque est obligatoire dans tout le pays. Les écoles, elles, sont fermées depuis début octobre. À Téhéran, la vie culturelle est à l'arrêt, mais rien n'y fait. Le gouvernement ne peut pas se permettre de confiner sa population. Entre les sanctions américaines et la mauvaise gestion du pays, l'économie est déjà au plus mal. Elle ne le supporterait tout simplement pas. Alors, entre crise économique et sanitaire, l'Iran se retrouve prise dans une équation impossible.
La correspondance en Iran de Yolam Melloul. Retour en France avec le gouvernement qui veut renforcer la lutte contre la haine en ligne. Annonce faite une semaine après l'assassinat de Samuel Paty. L'enseignant avait été victime d'une cabale sur les réseaux sociaux. Une centaine de policiers et d'agents des renseignements seront déployés pour surveiller ces réseaux. À Amiens, ce n'est ni sur Snapchat, Instagram ou Twitter qu'un détenu de la maison d'arrêt a déversé sa haine contre le professeur d'histoire géo décapité. Le prisonnier s'est félicité de cet assassinat alors qu'il participait à une formation en détention. Eh bien, il a été condamné hier à rester derrière les barreaux 8 mois supplémentaires. Compte rendu d'audience, Claudia Calmel de France Bleu Picardie.
C'est bien fait pour lui. On ne touche pas à ma religion. On ne touche pas à mon prophète. Il a eu ce qu'il méritait. C'est pour ces mots que Nabil se retrouve devant le tribunal. Des mots qui ont choqué la formatrice qui était dans la salle de cours ce lundi. Mais des mots que Nabil n'assume plus vraiment à l'audience. Alors oui, il a dit que c'était bien fait, mais il avait mal compris. Il pensait en fait que Samuel Paty avait demandé à ses élèves de dessiner des caricatures de Mahomet. Et alors, lui demande le président du tribunal, qu'est-ce que ça change? Pour vous, c'est normal qu'un être humain soit décapité? Non, répond Nabil. Mes mots ont dépassé ma pensée. Je déteste les terroristes et les tueries sont interdites dans l'islam. Les juges le questionnent à moult reprises pour tenter de cerner son cheminement de pensée, sans succès. Un garçon décrit par ses co-détenus comme plus bête que méchant. Ses avocats insistent sur ses fragilités psychiatriques. Il est suivi depuis plus de 20 ans à l'hôpital Pinel. La procureure rappelle que l'apologie du terrorisme est passible de 5 ans de prison. Elle demande 8 mois. Des réquisitions finalement suivies par le tribunal.
Et les avocats du condamné ont annoncé qu'ils feraient probablement appel du jugement. En sport, cela fait 7 mois et demi que les joueurs du 15 de France n'ont pas joué. Match aux allures de retrouvailles, donc avec le terrain et avec les Gallois. Début de cette rencontre au Stade de France à Saint-Denis à 21h. Elle se tiendra à huis clos. À Rennes, il y avait, juste avant le couvre-feu, encore 5000 spectateurs pour assister à la défaite des Bretons face à Angers 2-1. En cette 8e journée de Ligue 1 de football, aujourd'hui, Lorient reçoit Marseille et Paris accueille Dijon. Et puis toujours en football, les filles de Corinne Diacre ont laminé, écrasé l'équipe de Macédoine du Nord hier soir. Résultat 11-0. Les tricolores jouaient dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2022.
En ces temps d'épidémie hein, qui mettent à mal nos sociétés, notre sociabilité, nous faisons un détour ce matin par 70 peuples autochtones.
Les dernières sentinelles, comme les appelle le photographe britannique Jamie Nelson. Il propose une exposition de portraits géants à l'Atelier des Lumières à Paris. Visite guidée signée Isabelle Pasquier.
C'est un hommage à l'humanité la plus fragile que rend Jamie Nelson à travers ses visages. Des femmes Goroka, Maasai, Korafé, Mukawana, des enfants Nagula, des hommes Maoris, Samburu, Kalam. Jamie Nelson a capté la beauté de leurs coutumes, de leurs vêtements. Et ce qui frappe, c'est la fierté, la dignité dans les regards. Pour ce photographe baroudeur, ces peuples protègent la nature et donc nous protègent.
5% of the world's population. 5% de la population mondiale vit dans une nature qui n'est pas abîmée. Traditionnellement, on présente ces sociétés comme sous-développées, avec des hommes pauvres, noirs, qui vivent nus. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'inverser cette image. C'est faire d'eux des héros, des sentinelles, des gardiens de la sagesse qui pourraient nous inspirer dans de nombreux domaines, qui pourraient nous aider à ouvrir nos yeux, nos cœurs sur la nature. On doit vivre autrement. En ce moment, c'est une mauvaise période pour le business, mais c'est le meilleur moment pour ce message.
Dommage qu'aucune image ne montre la nature menacée ou déjà abîmée par l'industrialisation, la pollution. Dommage aussi que la bande-son ne soit pas celle des musiques de ces peuples.
Exposition à voir jusqu'au 15 novembre à l'Atelier des Lumières à Paris. Vous écoutez France Inter, il est 7h09 et vous retrouvez Éric Delvaux.
C'était le journal de Claire Checaglini. À tout à l'heure Claire, le temps de ce samedi.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Avec du soleil aujourd'hui pour le sud et pour l'est, Jean-Michel Golinski.
C'est vrai, du soleil en particulier du sud-ouest à la Méditerranée et de l'est du Rhône à l'Alsace, tandis que sur un large quart nord-ouest du pays, c'est un temps maussade qui s'installe, faiblement pluvieux, mais cet après-midi, les pluies vont se renforcer par la Bretagne et par les pays de la Loire, avec un vent de sud-ouest jusqu'à 90 km par heure. Ce soir, la nuit prochaine, cette zone de temps plus perturbée va gagner vers l'intérieur. Les températures, avant de fléchir demain, vont conserver aujourd'hui des valeurs de 20 à 20 32 degrés autour de la Méditerranée et dans le sud-ouest, et de 17 à 19 plus au nord.